jusqu'à 18h. Vous écoutez Bouchard en parle.
C'est Bouchard en parle.
Avec Sylvain, Elisabeth Crête et Jean-Simon Buis.
Bouchard en parle au FM 93.
Ben à 16h, il n'y a pas plus de trafic qu'il y a une heure. Puis je vous prédis dans ma boule de cristal qu'il n'y en aura pas plus dans une heure non plus. Mais si vous voyez quelque chose, écrivez-nous au 25226.
Et à la météo, ben c'est nuageux présentement. Il y a quelques éclaircies au loin, mais disons que c'est pas très, très présent le soleil aujourd'hui. Mais demain, ça devrait être plus présent. Généralement soleillé, maximum de 3. Et c'est de la pluie pour jeudi et vendredi. À Québec, il fait 4.
Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre. Éliminez vos dettes sans faire faillite, c'est possible. Jean Lelièvre, autorisé en insolvabilité. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
16h, avez-vous vu le beau soleil? Hein? Il me semble que c'était plus gris aujourd'hui, avant midi, à midi. Et là, en tout cas, chez nous, dans le Bourgneuf, le soleil est en train de se pointer avec le ciel bleu, il y a des nuages encore. On a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, les amis. Ils sont faire du bien, les tounes, là. Pour une fois, on va être à l'heure en passant. Il est quasiment...
Pile!
D'habitude, on a toujours du retard un peu, on est indiscipliné. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Quand on regarde le nombre de cas, c'est sûr que ça augmente, mais le nombre d'hospitalisations au Québec et le nombre de personnes admises en soins intensifs, vous avez écouté le point de presse à 13h, c'est en train de se stabiliser. Alors, on ne peut pas l'affirmer. Il y a déjà des experts qui pensent que peut-être, moi je fais attention, là, regarde, je veux pas m'énerver trop, là. Peut-être qu'on est rendu au sommet, là. Okay, qu'on va plafonner un peu pendant quelques jours, ça va peut-être monter encore un petit peu, mais on a tous hâte à la descente. On n'est pas là. En Europe, il commence, là, certains pays, hein, à voir la descente. Alors, ça sera pas magique, là, je peux pas faire de prédiction, ça, on aimerait tous ça savoir dans 2, 3, 4 jours, mais je pense qu'il commence à y avoir un petit peu moins de brouillard, puis on commence peut-être à voir apparaître le sommet de la montagne qu'on est en train de monter. Il y en a qui sont essoufflés, il y en a qui sont tannés, il y en a qui sont écœurés, mais au moins, c'est encourageant quand tu grimpes une montagne, là, tu dis, OK, ah, on voit le drapeau en haut, là. C'est là. Alors, on a eu une conférence de presse aujourd'hui où le docteur Arruda et François Legault, à deux reprises au moins, ont fait des jokes un peu, là. Il y a eu des moments légers. Bon, là, je dis ça, puis dans 15 minutes, on va présenter des scénarios, dont un optimiste et un pessimiste. Peut-être que ça va jouer sur l'humeur des gens, mais pour l'instant, on reprend notre tradition 3 fois plutôt qu'une. On va essayer d'y aller en blitz. J'ai 3 tonnes. Pour vous, des tonnes qui nous encouragent, qui c'est bon pour le moral, sans que ce soit la tonne, c'est bon pour le moral, là. Sans que ça devienne la compagnie créole.
C'est pas nécessaire.
Non, ça on est capable de passer au travers la crise sans ça. On va commencer avec la tradition. Il est 16h, journée. Ça a l'air que je le prononce mal en passant, là. C'est quoi l'affaire?
Mais non, c'est journée, là.
C'est journée.
Il y en a qui sont un peu...
Non, mais je reçois des textos à tous les jours. Hey! Une autre façon de prononcer ça ou...
Non,
c'est journée.
Ouais, c'est journée. Je sais pas exactement.
Non, mais on lit les textos, puis il y en a un qui est... Hey, montrez-donc à Bouchard à prononcer ça comme du monde. Mais ça fait partie un peu... Hey, en passant, je suis pas fâché. Je vous pardonne ça, là. Mais je lis les textos, puis je m'aperçois que... Puis c'est compréhensif en cette période d'isolement et de confinement. Les gens sont plus primes, sont plus raides, sont plus... Pas tout le monde, mais il y en a. La majorité, très grande majorité, c'est des super bons commentaires. D'accord ou pas d'accord, ça, c'est pas grave. Ça, vous avez le droit, là. Mais je remarque un petit peu une certaine agressivité. Peut-être que vous le sentez aussi quand vous allez à l'épicerie, quand vous allez un peu partout, que le monde est... Puis il nous reste encore un mois, hein. Alors, il faut garder le moral. Ça sera pas toujours facile. Journey, on aime bien ça. Mais on cherchait depuis un certain temps d'autres chansons, notamment du côté francophone. Et on en a une hier qui a été un bon succès. Alors, on va la reprendre. Aujourd'hui, c'est le DJ Pickefeller avec plein d'artistes de Québec. Je pense qu'on est une quinzaine là-dedans, au moins.
Oh,
on
oui,
a nommé hier. Avec la toune qui s'appelle « Ça va bien aller ».
Oui.
Alors, ça a été un succès hier. On vous représente ça au FM 93. Montez le son dans votre voiture. On est capable de baisser les fenêtres, hein? Je pense qu'il fait assez beau pour ça.
Oui.
On écoute ça. Dans mon sel, la chanson, comment je fais, hein?
Je sais pas s'ils l'ont mis sur.
Check donc, sur Apple. Sur Apple ou Spotify.
Ouais, check sur Spotify, s'il est là. Ça va bien aller. Quand je fais Pickefeller,
c'est le fun d'avoir des tunes positives ces temps-ci parce que la musique, ça peut vraiment influencer notre humeur. Il y a des tunes, hein? Tu sais, des fois, juste avant de sortir, là, moi j'appelle ça se crinquer un peu, mettons, tu fais jouer des tunes un peu, ça te met dans l'ambiance, ça le met dans le beat. Je sais pas si je suis le seul à faire ça, des fois, là. Mais des fois, avant de sortir, tu sais, on met une couple de tunes, ben oui. Puis ça fait du bien. Des tunes aussi qui accompagnent des moments de tristesse ou n'importe quoi. Ça a vraiment une influence. Et ces temps-ci, tu sais, les tunes tristes, on peut les tasser un peu, là. Il y a assez d'affaires tristes et on peut se contenter de chansons comme ça qui nous crinquent un peu.
Ouais, ça va bien aller sur Spotify, en tout cas, là. Je sais pas si c'est là sur Apple Music.
Ah ouais?
Oui, sur Spotify, il est disponible. Bon. Pickefeller, ça va bien aller.
OK. Ah, on va aller chercher ça parce que je veux ça dans mon cerf. Et je termine en sérieux, puis pas, un peu en humour. Ça aussi, ça a été beaucoup apprécié de nos auditeurs hier. Fait qu'on va la rejouer, on se permet ça aujourd'hui. C'est tiré d'un monologue d'Yvon Deschamps qui s'appelle « On va s'en sortir ». Ça date de 1972. Et vous allez voir Yvon qui fait chanter la foule un peu. Fait qu'on s'imagine, on peut pas se rassembler. C'est impossible, on peut pas. Mais on peut l'imaginer qu'on est avec lui. Alors, s'il y en a qui veulent faire comme moi hier, des gens qui ont trouvé ça drôle un peu, mais c'est pas grave. Mais vous avez le droit d'essayer de la chanter avec Yvon.
Je vais compter jusqu'à trois et vous allez me crier très fort. On va s'en sortir. Attention. Un, deux, trois.
On va s'en sortir.
Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Ah, m'en finir par le créer. On va vous chanter ça. Écoutez bien ça. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Hey, j'ai une bonne idée. Vous autres, vous allez chanter ça. On va s'en sortir. On va s'en sortir, ça c'est mieux, oh, allez-y. On va s'en sortir, vous autres vous chantez pas mais Moses. On va s'en sortir, encore une fois plus fort. On va s'en sortir. On va s'en sortir.
Celle-là, est-ce qu'elle est sur Spotify ou Apple
Music?
Ouais,
je pense pas, par contre.
Je veux faire un top 10 des meilleures chansons pour le moral, pour être de bonne humeur. On a besoin de ça. Je pense qu'on n'a jamais fait jouer autant de chansons dans Bouchard en parle. Il nous reste 5 minutes avant la conférence de presse. Oui, on va la diffuser en direct. Ça fait longtemps qu'on attend les fameux scénarios du gouvernement, les scénarios optimistes ou pessimistes face à la crise. Ça va être dévoilé, c'est déjà dévoilé devant les journalistes. Il y avait un briefing spécial pour eux en privé. Puis là, à 16h15, c'était le point de presse où on dévoilait ça en public. Mais juste avant, on a des médailles à donner, on a des vaccins. On est un petit peu en retard parce que hier, honnêtement, c'est de ma faute, je l'ai complètement oublié. On avait une médaille à décerner. Continuez sur 25226, j'en ai reçu par courriel aussi. Vous nommez des gens dans votre entourage, comme à la guerre, des soldats qui méritent des médailles. On les appelle nos vaccins. Alors hier, c'était...
Hier, on a comment... En fait, celui d'hier, c'est celui qui date de vendredi passé.
Oui, oui.
C'est Jonathan Pageot qui l'a gagné. C'est le répartiteur du 911 en ambulance. Alors, ce qu'on nous avait écrit, c'est chaque jour, il répond à des gens angoissés avec calme et contrôle. C'est un travailleur de l'ombre du système de santé.
Et on en profite, comme à chaque fois, pour saluer tous ceux qui travaillent dans des services d'aide ou services de je sais pas trop quoi au téléphone. Que vous soyez à l'Agence de revenus du Canada, que vous soyez au 911, à InfoSanté, à la fameuse ligne là 4545, il doit en avoir une tonne de monde. Puis tu sais, je disais tantôt qu'on sent qu'il y a une petite agressivité un peu là, chez certains. Il y en a qui sont plus primes qu'avant. Ça doit pas être évident, là. Alors, bravo à tous les gens qui assurent un service essentiel au téléphone.
Et le deuxième, celui en fait qui a gagné finalement hier, c'est M. Denis de Montigny. Il a été nommé par son ami, en fait quelqu'un dans son entourage qui s'appelle Lise. Ce qu'on a sur lui comme information, c'est qu'il travaille à l'hôpital Jeffrey L. Et il est à l'hôpital de jour, en fait, en physiothérapie. Il n'a pas de patients à cause du virus, alors il va aider le personnel sur le département de la COVID-19. Il prête main forte à l'équipe qui est réduite pour évidemment des pauses de quarantaine, parce qu'au Jeff, il y a beaucoup de personnel là, qui sont en quarantaine présentement. Alors, la personne dit « Je salue le dévouement du personnel de physiothérapie qui volontairement vont aider l'équipe médicale. »
Volontairement. Pas des conscrits, là. Tu sais, à la guerre, il y en a qui sont allés parce qu'ils n'avaient pas le choix, vous savez ça? C'était la conscription. Alors, ça, lui, il est inhalo. Je comprends, il n'est pas inhalothérapeute. Excusez-moi, il est physiothérapeute.
Oui.
Alors, comme bien des départements, j'imagine, il y a eu du lestage un peu ou il y a eu du rationnement, ils ont moins de job. Il pourrait juste dire, on s'entend là, c'est quand même pas zéro. Il y a des gens actuellement qui travaillent pas du tout, sont payés, on revient pas là-dessus, mais c'est un fait. Il aurait quand même pu prendre ça. Il a décidé d'aller se pointer dans le département où il y a de la COVID-19, où il pourrait y avoir des risques, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnel qui a été touché et qui sont actuellement en quarantaine. C'est bien ça?
Mm-hmm.
Bravo! Profitons-en pour souligner tous les retraités qui sont retournés au travail, qui sont retournés au combat. Les gens qui avaient des congés, on a déjà donné une médaille à une infirmière qui était en congé maternité, puis qui a décidé de stopper tout ça, puis de continuer à travailler, puis à œuvrer. Bravo! Donc, les médailles sont données pour l'instant symboliquement, mais on espère un jour pouvoir vous les donner en personne. Avec le docteur Arruda. Pourquoi pas? On va l'inviter, ça va pas dire qu'il va dire oui. Mais sérieux? Je m'engage, mais qu'on le fasse, mais qu'on donne nos médailles pour vrai, hein, ce serait une belle occasion de le remercier aussi. On pourrait demander au docteur Arruda de participer à ça.
À condition qu'il amène des tartelettes portugaises, par contre.
Il a été nommé plusieurs fois.
C'est nous autres qui va les amener.
Ah, okay.
Donc, on va le gâter.
Ben, moi, je le fais pas. En tout cas, vous les ferez si vous
voulez. Moi non plus. Bon, on va se débrouiller.
Mais il a été nommé plusieurs fois, par exemple, le docteur Arruda. Évidemment, on l'a pas nommé à proprement dit dans nos vaccins parce qu'on allait dans la communauté. Mais plusieurs fois, les auditeurs ont dit qu'il mériterait, là.
Ouais, mais lui, on va peut-être y en donner une plus grosse, justement, là, si jamais on l'invite au gala où on fera peut-être de quoi de spécial. On verra bien. Mais ce sera le fun qu'il soit là, pourquoi pas.
Ben oui.
Alors, pour l'instant, ces médailles-là, je peux pas vous les donner en personne, mais on vous les envoie quelque part dans les airs. Juste d'être nommé, j'imagine que ça peut faire du bien un peu. Vous nous en envoyez d'autres. On veut savoir ce qui se passe. On est à la maison, on le voit pas. C'est plus tough pour nous autres aussi, les médias, d'être partout. Là, on se déplace pas comme avant. On est sans route, mais garde, on peut pas aller à grand place. 25-226, si vous avez connaissance, qu'importe le secteur, si c'est touché par la COVID-19, il y a des gens qui en font un petit peu plus, ça mérite d'être nommé à la radio. Allez-y, on va en choisir de nouveau pour demain par texto 25-226. Vous pouvez aussi nous appeler 670-93-30. 16h14.
Bouchard en parle. Maintenant, au retour. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
Bon, alors on va s'en aller. Dès que là, préparez-vous, on va diffuser en direct le point de presse, fait que ça se peut que ça coupe vite. C'est les fameux scénarios demandés depuis plusieurs jours. L'Ontario le fait, vous devez être au courant. Si vous écoutez le point de presse comme nous, à chaque fois, il y a des questions à Arruda, à M. Legault. Allez-vous nous présenter les scénarios, vers quoi on s'en va? Parce qu'il y en a. Des positifs, puis des pessimistes.
Oui.
Puis là, ça a l'air qu'on se situe plus du côté des optimistes, mais on aimerait ça savoir vers quoi on s'en va. Jean-Simon, est-ce qu'il y a des détails qui ont déjà filtré parce que les journalistes ont déjà l'information?
Oui, c'est ça. On vient de m'envoyer le document avec les scénarios en tant que tel. Donc, en attendant le point de presse, on va être en mesure de vous donner un petit peu des chiffres qui sont prévus et des horizons temporels un petit peu. Bon, alors les deux scénarios qui sont présentés, on les qualifie de optimistes avec un pays associé ou de pessimistes avec en généralement l'Italie qui est associée. Alors, dans le cas des cas cumulés positifs, en date d'aujourd'hui, on prévoit un pic le 30 avril. Okay? Dans le scénario A, qui serait le scénario optimiste, qu'on compare au Portugal, parce qu'effectivement, au Portugal, ça se passe très bien, on prévoirait 29 212 cas le 30 avril, des cas positifs confirmés. Pour ce qui est du scénario pessimiste, qui, on vous le rappelle, a été un peu écarté, pas tout à fait, là, mais a été moins, disons, moins vraisemblable selon les autorités présentement, on monterait à 59 845. Ça, c'est dans le cas d'une courbe qui ressemblerait à l'Italie. Dans le cas des hospitalisations en tant que telles, le pic serait atteint aux alentours du 16 avril. Dans un scénario pessimiste, donc similaire à l'Italie, on parlerait de 3028 hospitalisations, donc un pic le 18 avril. Dans le cas d'un scénario optimiste, on serait à un pic un peu plus éloigné, donc à peu près le 21 avril, avec 1404 hospitalisations. Aux soins intensifs, scénario pessimiste, il serait atteint dès le 16 avril avec 1009 patients aux soins intensifs. Pour ce qui est du scénario optimiste, il serait atteint aux alentours du 21 avril avec 468 hospitalisations aux soins intensifs. Et pour ce qui est des décès, c'est peut-être la donnée que vous attendiez avec le plus d'impatience.
Ouais.
Scénario pessimiste et optimiste, dans les deux cas, serait atteint le 30 avril, donc pic de décès dans ce cas-ci. Scénario pessimiste, 8860 décès. Scénario optimiste, 1263 décès.
On va être à 150 décès. On n'a pas fini, hein?
Oh non.
Bon, et ça, c'est le scénario optimiste. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup, là.
Oui.
Mes remarques, ils n'ont pas arrêté de le dire, c'est les deux ou trois prochaines semaines qui vont être les plus tough.
Oui.
Il faut passer à travers ça. Les amis, on n'a pas le choix. La bonne nouvelle, c'est qu'après, là, on a atteint le pic puis on descend. Mais on est à 9340 cas et le scénario optimiste en prévoit 29 000.
Oui.
On n'est pas à la moitié, là. On est même pas. On est à peu près au tiers.
Oui,
c'est
exact.
Ça? On est seulement au tiers, les amis. Et concernant le nombre de décès, ben là, c'est là que ça frappe peut-être le plus. On est à 150 et le scénario optimiste en prévoit 1200.
T'as 10%.
Tu es...
ouais.
T'as 10% exactement du nombre de décès actuel.
C'est pas fini. Ouais.
Mais ça veut dire qu'il prévoit beaucoup de gens qui sont aux soins intensifs ou hospitalisés ou dans les résidences ou je sais pas trop quoi, passeront pas au travers.
Dans le scénario optimiste, Sylvain, c'est intéressant de faire le calcul, 1263 décès, donc scénario optimiste, divisé par le nombre de cas positifs confirmés, 29 212, on arrivait à 4%.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
C'est, s'il y en a qui comparent ça encore à la grippe qui est 0.01, c'est 0.01 la grippe. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, là, hein? C'est pas mal ça qu'on, qu'on a toujours dit.
Mm-hmm.
Là, on serait à 4%. C'est beaucoup plus. Je vais essayer de voir du positif un peu là-dedans parce qu'il y en a. Le pic devrait être atteint au niveau des hospitalisations à la mi-avril, puis au niveau des morts à la fin avril.
Oui.
Donc, en mois de mai, ça devrait descendre un peu.
C'est
conférence
ça.
De presse, on peut y aller.
Accompagné de M. Yvan Gendron, sous-ministre au ministère de la Santé et des services sociaux. Alors, Dr Massé, est-ce que vous voulez prendre la parole en premier?
Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer pour vous présenter les différents scénarios, les modèles qui ont été élaborés. Oui, merci. Comme vous avez vu, les modèles sont basés à partir à la fois des données québécoises et à partir des données qu'on a de d'autres pays.
C'est M. Richard Massé qui parle.
Ces pays-là,
exact.
Parce qu'ils avaient des caractéristiques importantes pour se comparer. Des modèles où est-ce que les gens sont intervenus plus tardivement, parce qu'ils ont détecté l'épidémie plus tardivement, je pense à l'Italie, et c'est un facteur important qui a modulé la transmission. D'autres pour lesquels il y a eu des interventions rapides, et ça a été un facteur très important dans le contrôle. Donc, j'imagine que vous aurez peut-être des questions en lien avec ça. En même temps, il faut comprendre que quand on fait des scénarios, ces scénarios-là sont une prévision de la réalité mais ils ne sont pas la réalité. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'évolution de l'épidémie au Québec, la pandémie au niveau mondial. Et un de ces facteurs-là, c'est certainement les mesures qui ont été prises rapidement par le gouvernement du Québec pour contrôler la transmission. Et si les gens maintiennent l'attitude qu'ils ont eue jusqu'à date, on a eu des résultats assez importants, un succès, on devrait dire, à date. Et il ne faut surtout pas les relâcher. Donc, on pourrait accepter vos questions, à moins que M. Gendron ait des...
M. Massé qui parlait, c'est l'adjoint de M. Arruda. Donc, ce que vous avez entendu, Richard Massé, l'adjoint de M. Arruda.
Il est certain que moi, en fonction de mon rôle comme sous-ministre de la Santé et Services sociaux, là, bien sûr, sous le leadership de nos trois ministres, là, il était important de s'assurer qu'on puisse capter les informations nécessaires pour organiser les services, pour être prêt d'avance et bien d'avance. Pour pas être pris là, à la dernière minute là, à savoir comment on s'organise, comment on libère des lits, comment on s'assure qu'aux soins à domicile, on soit auprès de la population, des gens qui sont vulnérables, d'être à l'affût de leurs besoins tout le temps. Je pense aussi aux jeunes, à leurs familles, aux gens qui sont dans les centres jeunesse. Là. Donc, peu importe le secteur ou surtout notre clientèle, il fallait être prêt. L'itinérance, c'est la même chose. Hein, l'itinérance dépendance dans les secteurs de la ville de Montréal, par exemple, ou de d'autres villes, peu importe. Nous, il fallait savoir là, qu'est-ce qui risque de se passer en fonction de l'expérience acquise des autres pays, des différents scénarios, et en fonction des faits réels qui sont observés actuellement, tant au niveau du nombre de cas, du taux d'hospitalisation, du nombre de cas qui est en soins intensifs, et s'assurer quel retour, finalement, comment on s'assure d'un retour adéquat en sécurité pour l'ensemble de la clientèle. Donc, c'est un grand défi. Donc, on devait planifier, être prêt, bien sûr, en tenant compte des ressources disponibles, que sont, bien sûr, notre personnel, les médecins, là. Parce qu'eux aussi, ils vont être atteints, donc, à un différent niveau. Donc, on veut s'assurer qu'ils soient bien protégés pour bien soigner, pour être disponibles pour l'ensemble, là, des besoins des différentes clientèles, qu'elles soient vulnérables, très vulnérables ou moins vulnérables. Donc, là-dessus, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, tant au niveau de la planification des lits, par exemple, en centre hospitalier, tant au niveau aussi de s'assurer d'avoir le bon équipement. Et là-dessus, c'est un combat, hein, vous l'avez vu, hein, c'est un combat mondial pour l'acquisition des différents équipements, qu'ils soient masques, blouses, gants, etc. Là. J'ai pas besoin de vous les nommer. Donc là-dessus, en fonction des données qui ont été observées et qui nous sont données jour après jour, on s'adapte pour être bien prêt pour faire face justement à ces besoins-là de la population.
Merci à vous deux. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions des collègues de la Tribune de la Presse, nous allons débuter avec Olivier Bossé, du journal Le Soleil.
Bonjour. Évidemment, ces deux scénarios... si je comprends bien, c'est que ces graphiques-là appliquent les chiffres de ces deux autres pays aux chiffres du Québec, bien, au Québec. Donc, est-ce que c'est possible de savoir où on va se retrouver entre les deux?
Comme ça a été mentionné déjà, c'est extrêmement difficile de mettre un chiffre précis où est-ce qu'on va se retrouver. C'est pour ça qu'on a arrêté la courbe au réel, pour que vous puissiez vous-même voir que si on pense que les choses se déroulent bien par rapport à un pays qui a beaucoup de caractéristiques qui se rapprochent de nous, à ce moment-là, on va être vraiment proche du scénario optimiste. On sera certainement pas proche du scénario pessimiste. Mais si vous me demandez un chiffre entre les deux chiffres qu'il y a là, je ne vais pas vous mettre un chiffre précis. Mais je vais vous dire, on va être certainement proche du chiffre optimiste pour ce qui est du nombre de cas, puis pour ce qui est du nombre de décès, parce que c'est l'autre chiffre dur. Bien, vous voyez la courbe comme nous, ce n'est pas le même pays qui est comparé, mais ça montre que aussi on est dans une position relativement favorable. Il y a plein d'autres pays qu'on aurait pu comparer en Europe, mais ces pays-là, on les a pris parce qu'il y avait soit des performances qui étaient moins bonnes, pas parce que les pays sont moins bons, parce qu'ils ont commencé à intervenir plus tardivement. Le diagnostic de la transmission dans des centres urbains dans le nord de l'Italie s'est fait tardivement. Il y avait déjà plusieurs générations de transmission quand c'est arrivé. Puis là, les modèles montrent que quand il y a un retard pour commencer à appliquer les mesures, ça donne des chiffres qui sont un scénario extrêmement difficile, pénible, difficile à vivre. Alors que la comparaison des scénarios optimistes, c'est quand les gens interviennent rapidement. Ça, c'est le premier facteur. Et on est intervenu très rapidement. Le deuxième, c'est la fonction de la compliance des gens aux mesures qui sont mises en place. Puis là, ben, je vous réfère au sondage Google qu'on a eu cette semaine qui montre que les Québécois sont vraiment de façon exemplaire. Il y a toujours des exceptions, mais ils sont vraiment exemplaires. Et ça, c'est un facteur extrêmement important pour être capable de voir la suite des choses. Et là-dessus, ça nous met dans une situation qui est pas les meilleurs au monde, là, on n'est pas là-dedans, mais je dirais parmi les gens qui ont fait les bonnes mesures au bon moment puis qui devrait avoir moins de mauvaises conséquences que ce qu'on voit. Donc, relativement optimiste par rapport au scénario à arriver, effectivement.
En sous-question?
Je suis curieux de savoir, M. Massé, si vous étiez, vous, du côté des favorables à dévoiler ça ou pas. C'était quoi votre... C'est quel côté vous penchiez?
J'étais personnellement, j'étais mal à l'aise de faire une projection bien au-delà de ce qui est mis là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des projections qui sont beaucoup plus loin en avant de nous. Pas, des gens pas loin de nous, la province à côté. Et puis, on était extrêmement mal d'aller dans une situation comme ça parce qu'il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir, notamment si on change les mesures puis on relâche les mesures. Il va falloir reprendre la vie, reprendre l'économie. Et donc, ça, c'est un facteur très important qui peut changer la transmission. La deuxième, c'est qu'il peut intervenir des médicaments. Puis il y a plusieurs recherches qui se font sur des médicaments, même ici au Québec, plusieurs études qui sont en cours, mais avec un volet national, international, et qui peuvent changer, même à court terme, l'évolution de la pandémie. Le troisième, il y a des recherches sur les vaccins. Ça prend plus de temps pour avoir des vaccins, mais c'est un, je m'excuse du mot anglais, mais c'est un game changer. Et puis, donc ça pourrait être vraiment important. Donc, une prévision qu'on pense qui est relativement bonne, relativement stable, nos scientifiques sont confortables d'avancer dans cette échelle-là, est à 30 jours. Fait confortable de donner les chiffres à 30 jours, oui. Si vous me demandez dans 6 mois ou dans 12 mois, moi, je n'étais pas confortable.
Très bien. Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
Bonjour, messieurs. On regarde vos graphiques et on voit que parfois, on fait mieux que le scénario optimiste, par exemple, dans le nombre d'hospitalisations, dans le nombre de personnes aux soins intensifs. Parfois, on fait moins bien que le scénario optimiste, par exemple, pour les cas positifs ou pour les décès. Comment vous expliquez ces variations-là, par exemple?
En fait, si on aurait pu changer de pays à chaque fois pour dire, bien, eux, c'est les meilleurs, on va se comparer aux meilleurs, puis vous donner des comparables différents à chaque fois, hein, pour dire, on se compare aux meilleurs. En fait, il y a plusieurs pays qui sont dans le groupe des meilleurs. Et puis, on a pris le Portugal et on a pris l'Allemagne parce que l'Allemagne avait, au niveau des décès, vraiment des bons résultats. Le Portugal, c'était bien expliqué tantôt par M. Lafleur. Il y a beaucoup de choses qui sont proches de nous au niveau du Portugal. Il y a des centres urbains importants, proximité de l'Europe. Le fait qu'il y ait beaucoup de voyageurs qui viennent et qui sortent de là-bas. Le fait qu'ils sont à côté de l'Espagne, qui est une zone de transmission importante. Nous, on a New York, on sait que c'est un facteur important au niveau du Québec. Le niveau des services de première ligne, etc. Donc, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais il y a beaucoup de caractéristiques importantes. Mais le facteur le plus important là-dedans, la plupart des pays ont mis des mesures de contrôle qui sont assez proches. D'aucuns ont dit, non, on ne va pas interdire la bicyclette. D'autres, on va interdire la marche. D'autres, on va... Écoutez, ça dépend de la proximité des personnes, ça dépend de l'organisation urbaine. Je pense que les regarder individuellement, c'est pas une bonne chose. J'aimerais mieux qu'on les regarde collectivement. Puis collectivement, les gens, il y en a qui au début ont dit, on va laisser aller. Là, je pense que tout le monde a bien compris que laisser aller, c'est pas une bonne solution. Donc, tout le monde l'a compris. Fait que tout le monde a pris des mesures de distanciation. Tout le monde a pris des mesures pour protéger les plus vulnérables. Mais il y en a qui ont eu la vision ou la capacité de le faire rapidement, efficacement, fortement. Et ça, c'est la différence. Après ça, qu'on dise, est-ce qu'on aurait pu prendre tel pays, non, c'est la façon que les choses ont été faites. Et c'est là qu'on se compare. Quand je dis optimiste, c'est peut-être le mot même, on devrait, mais un scénario des gens qui ont pu intervenir rapidement parce qu'ils ont diagnostiqué rapidement. Peut-être qu'on a été chanceux, parce qu'on a eu les premiers cas un peu après les autres. Hein. Ça a été bien dit, mentionné aussi, on a 15 jours de retard par rapport au nombre de 10 qui est le début, où est-ce qu'on le calcule. Voyons, là, inversement, on a 15 jours d'avance pour voir venir les choses puis dire, eh oh, si on fait rien, il va arriver un problème majeur. Et on en a profité de ce temps-là pour intervenir tout de suite.
Est-ce que vous avez une sous-question?
Oui, j'aurais une sous-question parce que tout à l'heure, on a évoqué le sujet dans le briefing technique, mais on a donc évaluer que le pic pourrait survenir autour du 18-20 avril. Si on pouvait expliquer maintenant au grand public pourquoi on l'estime à peu près dans ces dates-là.
Bien, encore une fois, on se fie à la dynamique de transmission du coronavirus. Au début, on sait que ce virus-là se multipliait par deux, le nombre de cas se multipliait par deux à peu près aux 3 jours. On regarde la transmission au Québec et ailleurs, puis tout d'un coup, on voit que c'est plus de 3 jours, mais que ça devient quelque chose comme 4 jours, puis actuellement, quelque chose comme 6 jours. Donc, on est capable de voir qu'il y a un changement dans la transmission dû en bonne partie, pas à l'immunité encore dans la population parce qu'il n'y en a pas assez, mais aux mesures de contrôle qui ont été mises en place. Et quand on fait les projections de modèles de transmission, là, à ce moment-là, on est capable de voir que ça va ralentir assez la transmission si on continue d'appliquer les mesures correctement. J'insiste, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Docteur Arruda, il dit tout le temps aplatir la courbe, mais je pense que c'est important de saisir ça. Si on ne modifie pas les choses comme ça tout d'un coup, il va falloir rouvrir notre capacité. Là, à ce moment-là, on peut faire des projections, effectivement, qu'on va arriver à une fourchette. On peut focusser sur un chiffre. Moi, j'aime pas ça dire un chiffre parce que c'est plutôt une fourchette. Puis la fourchette, tout le monde s'accorde pour dire que ça devrait être quelque chose comme entre le 15 et le 20. Le 18, c'est certainement une bonne date pour les prévisions. Quand on prévoit pour les lits, on a besoin d'avoir un chiffre, une date. Donc, on le fait comme ça. Mais moi, je vous dis, d'un point de vue de la santé publique, c'est un peu plus large comme ça. On est plus prudent un peu.
Merci. 15h30. Alors voilà, c'était le point de presse suite au dévoilement des fameux scénarios du gouvernement optimiste ou pessimiste. C'est un peu la boule de cristal du gouvernement qu'on a dévoilé cet après-midi. Évidemment qu'il faut prendre ces chiffres-là, comment je pourrais dire ça, avec précaution. Oui. Ce sont des prévisions. Mais moi, j'aime ça. On va vous les répéter d'abord pour ceux qui ont manqué à 16h15 l'introduction avec Jean-Simon. Fait que voici avec le scénario le plus probable, parce que là, ils nous disent qu'on est dans le camp... c'est-à-dire qu'on est dans la courbe un peu des scénarios optimistes. Alors, ça donnerait quoi comme évolution dans les prochains jours, Jean-Simon?
Commençons par les cas positifs confirmés. Alors, présentement, on est à 9340. On monterait, dans le scénario optimiste, à 29212. Si on regarde le chiffre actuellement, on est un petit peu au-dessus de la courbe optimiste pour ce qui est des cas confirmés. Donc, on a un petit peu plus que ce qui serait dans la courbe optimiste.
Ah, OK. Mais il en reste encore 3 fois plus à venir, là.
Exact. Ouais. Pour ce qui est du nombre d'hospitalisations, en ce moment, on est à 583. On atteindrait un pic optimiste aux alentours du 21 avril à 1404.
Bon, 1404, là, on a 6000 lits de disponibles.
Exactement.
Fait qu'on est encore capable d'absorber ça. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Oui, et d'ailleurs, on est un peu en dessous du chiffre projeté dans la courbe optimiste pour les hospitalisations. Et c'est la même chose pour les soins intensifs. On est à 164 cas aux soins intensifs présentement. Courbe atteinte aux alentours, c'est-à-dire pic atteint aux alentours du 21 avril à 468 dans un scénario optimiste. Encore une fois, on est un peu en dessous de la courbe optimiste qui est basée sur le scénario portugais présentement par rapport à l'évolution qui a eu lieu au Portugal. Et pour ce qui est du nombre de décès, le pic serait atteint comme le nombre de cas aux alentours de 1263. En tout cas, c'est jusque-là que se rend la courbe. On est présentement à 150 décès, un peu au-dessus de la courbe optimiste en ce moment. Donc, on est un petit peu plus de 10% des décès projetés dans un scénario optimiste. Mais ce qu'on remarque de façon extrêmement spectaculaire, c'est que moi, j'ai les graphiques sous les yeux. On vous les rendra disponibles bientôt sur nos médias et sur nos sites Internet, nos réseaux sociaux et nos sites Internet.
Ouais.
Mais ce qui est vraiment flagrant, c'est le gouffre entre le scénario pessimiste et le scénario optimiste. Là, c'est une montagne de l'Himalaya par rapport à une colline des Laurentides. Okay?
Ça, c'est si on n'avait rien fait. Ce que tu veux nous dire, c'est que le scénario que tu viens de nous donner là, il est quand même pas le fun. C'est parce que, bon, si on regarde ça comme faut, on a encore 3 semaines difficiles, les amis,
oui,
là, avec des chiffres qui vont monter, tout ça. Mais ça aurait pu être tellement pire si on n'avait pas pris de mesures, parce que toi, tu as le scénario pessimiste devant les yeux, là. Puis là, ça aurait été vraiment plus grave.
Oui, absolument. Alors, tu sais, c'est là qu'il faut réaliser à quel point il faut pas lâcher présentement. Puis ils l'ont bien mentionné, le docteur Massé, notamment, pendant le point de presse. C'est surtout pas le temps de militer pour rouvrir l'économie à 100% puis tout le monde sorte, là. Tu sais, l'exemple suédois que certaines personnes citent encore, là, je vais pas être plate, mais dans les dernières 24 heures, là, le nombre de décès a augmenté de façon fulgurante. C'est 100 décès dans les dernières 24 heures. Alors qu'à côté, et on sera peut-être en mesure de parler à quelqu'un, parce que c'est un auditeur norvégien qui m'a contacté, puis qui disait qu'en Norvège, on est en train de baisser les mesures à partir du week-end de Pâques, parce que on est pas mal sûr d'avoir le virus en contrôle. La Norvège, qui est un pays voisin de la Suède et qui a mis en place des mesures très similaires au Québec. Alors, c'est surtout pas le temps de défaire le travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant, là.
Moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je suis très content qu'il ait publié ces scénarios-là. C'est un peu une course qu'on est en train de mener. Là, je sais pas si vous avez déjà couru beaucoup. Là. Moi, je n'ai pas fait de marathon, de demi-marathon. Le maximum que je me suis rendu, c'est 10 km. OK?
Qui est très acceptable, très honorable,
ouais,
même.
Et j'aimais ça quand je faisais ça, voir les pancartes. Là. Je sais pas si vous me suivez. Ah, 3 km de fait. Ah, il m'en reste 7. Ah, 6. OK, il m'en reste 4. Vous me suivez?
Ouais.
Tu sais, je donne souvent l'exemple de la montagne. Tu grimpes une montagne, mais mettons que t'es dans le brouillard parce que rendu à une certaine altitude, il y a des nuages. Tu sais, c'est un peu décourageant quand tu sais pas il est où le sommet, là. Moi, avec ce que tu viens de me donner là comme chiffre, Jean-Simon, ben avec ce que les autorités ont donné puis que ce que tu nous as relayé, là, moi, j'ai l'impression que je vois plus clair.
Ouais.
Là, je sais où on s'en va. D'abord, j'accepte qu'on s'en va dans 3 semaines tough. On n'est pas encore rendu au pic, là.
Non.
Mais on s'approche, dans certains cas, mi-avril, fin avril, dépendamment des catégories, là, hospitalisation, soins intensifs, décès. Il y a beaucoup de données, mais je retiens que le pic va être atteint en avril.
Oui.
Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'avec les graphiques que je vois aussi, à la fin avril, Sylvain, on est officiellement dans la pente descendante et d'aplomb, là.
Et là, à partir de là, on pourra commencer à ce moment-là, quand on va descendre, de dire, ben, on rouvre-tu les chantiers de construction? Moi, je pense que c'est les premiers qu'il faut ouvrir. Ça va donner un gros coup à l'économie. Puis au niveau de la distanciation sociale, c'est réglable. C'est gérable, pardon.
Ouais.
Tu mets plus de roulottes. Bon, puis après ça, certaines autres usines, puis certaines autres industries, tu sais, là, ça va être le fun. On sera plus dans, tu sais, ce qu'on a vécu depuis à peu près le 13-14 mars, là. Chaque fois, il en fermait un petit peu plus. Là, on va être dans la réouverture. Ce sera progressif, mais ça va être le fun. Entre-temps, je sais pourquoi ils aiment pas ça faire ça. Ils veulent pas que le monde fasse « Yes! Parfait! On peut relâcher. Dans 3 semaines, ça va être réglé ou 4 semaines. » Ben non. Si on est dans ces scénarios-là, c'est justement parce qu'on respecte les consignes. Alors, il faut continuer. On a encore un bout de rough à passer, mais on va s'en sortir. Comme le disait notre chanson d'Yvon Deschamps tantôt, oui. On va s'en sortir. C'est ça, la bonne nouvelle. Et ça nous permet aussi de réaliser le fait qu'ils mettent le scénario pessimiste. Ce que ça nous permet de réaliser que ce qu'on fait là, ça nous a permis d'éviter ça. Combien d'hospitalisations dans le scénario pessimiste ou de morts?
Ouais, je vais te
répète le nom,
le nombre de morts, c'est presque 9 000. Le nombre de morts, je vais te retrouver les chiffres exacts. Là. Nombre de morts, 8 860 dans un scénario pessimiste. Nombre de personnes aux soins intensifs, 1 009. Fait que, oui. Tu doubles le nombre de personnes aux soins intensifs, puis c'est x8 pour ce qui est du nombre de morts. Là. C'est même pas comparable. Là.
Alors,
même pas
ceux là, qui disent encore, c'est un peu comme la grippe. La grippe, on l'accepte. La grippe fait 3 000 morts au Canada sur 12 mois. C'est important de donner ça aussi le 12 mois, là, parce que tous ceux qui arrivent avec les stades de la grippe, là, oubliez pas, là, nous autres, c'est coronavirus dans un laps de temps assez court. Alors oui, la grippe saisonnière fait 3 000 morts par année au Canada, vous avez raison, sur 12 mois. Là, si on n'avait rien fait, ou si on avait fait juste des petites mesures, comme certains le souhaitaient, on aurait probablement pogné, selon ces scénarios-là, tout près de 9 000 morts juste au Québec.
Oui.
Puis genre en 2 mois, là.
Genre en 2 mois?
Ouais. Non, ça n'a pas de sens.
Là, là-dedans, si vous pensez que c'est tout du monde de 80 ans et plus, oubliez ça. Là. Allez voir ce qui se passe en Italie puis ailleurs. Ouais. Quand le système de santé déborde, c'est pas juste du 80 et plus. Là, à date, au Québec, c'est vrai qu'on a beaucoup de 80 ans et plus parce qu'on est encore en contrôle et que les gens en santé, jeunes, ont capables de les soigner, etc.
Ben, on a eu on n'a pas beaucoup parlé, ça, d'ailleurs, mais quand les âges ont été demandés au docteur Arruda, il a mentionné qu'il y avait eu un décès dans la tranche d'âge de 30 à 39 ans. Et il avait aussi précisé que c'était quelqu'un qui était en surpoids assez sévère, mais il me semble que cette donnée-là, on n'a pas parlé beaucoup, là.
Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'il a tout de suite ajouté qu'il y avait une obésité ou il y avait de quoi, là.
Oui.
Faisant en sorte, il y avait c'est plat pareil, ça demeure dramatique, mais il y avait quelque chose.
Mais il y en a des gens en surpoids au Québec, là, présentement.
Oui.
Je veux dire, si ça leur a-tu fait peur, ça, de voir ça? Il y en a peut-être
déjà. C'était un cas d'obésité, comment t'appelles ça?
Le
morbide, là, on n'a pas eu beaucoup de détails. Tu sais, on n'a pas encore, c'est encore des chiffres, hein. On n'a pas de visage des morts. On en a quoi? 150?
Oui, 150 morts. Puis c'est vrai qu'on a peu de victimes connues, là. Il y a certaines personnes, des membres de famille qui en ont parlé, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visages.
On n'a pas beaucoup, fait que ça reste des chiffres. Peut-être que ça rend certaines personnes plus insensibles. Moi, j'essaie de mettre des visages. J'essaie d'imaginer. Faites-le. Vous allez voir que 150, c'est déjà beaucoup. On va se rendre en haut de 1 000. Même avec le scénario optimiste. C'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est qu'on aurait pu atteindre presque 10 000, là, un peu plus de 9 000 dans le scénario pessimiste. Mmh. Alors, on continue, on lâche pas, on va s'en sortir. Je pense que le gouvernement a fait un geste nécessaire. Je comprends qu'il y a eu des gros débats. Hein. Docteur Arruda voulait pas, c'est Legault qui l'a poussé, c'est ce qu'on a compris. Ben, qu'il l'a un peu incité. Mais je comprends les craintes du docteur Arruda. Il voulait pas que le monde panique. Moi, je fais confiance aux gens. La majorité, les gens sont intelligents. Ils vont écouter ça. Ça va juste être une petite tape dans le dos, là. Hey, on lâche pas. On continue. 16h39, OFM 93.
On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir.
Voyons! C'est rassurant de se dire qu'on peut compter sur Normandin. Les comptoirs et la livraison sont ouverts et leurs employés prennent toutes les précautions nécessaires pour nourrir votre famille. Procurez-vous la boîte déjeuner brunch comprenant tout le nécessaire pour le petit déjeuner. Quiche, jambon artisan à l'érable délectable, pudding à l'érable et plus encore pour seulement 55 $. Appelez au restaurant Normandin le plus près pour commander la vôtre. Vous pouvez prépayer et éviter tout contact à la livraison. Normandin, ça fait du bien.
Les roses sont à la Saint-Valentin, c'est que le chocolat Giacomo est à la fête de Pâques, un grand classique. Un authentique chocolat sans trace de noix ni arachide qui fait plaisir à offrir et à s'offrir. Pour les points de vente, consultez giacomo.ca. Pour Pâques, le vrai chocolat à déguster, c'est le chocolat Giacomo.
En tout temps, le tuyau de lave-vaisselle lâche, ou en tout cas, je sais pas moi, laveuse, il arrive de quoi avec la plomberie, robinet coule, etc. En tout temps, c'est plate, là. Mais là, on est tout le temps dans la maison. Il ne faudrait pas que ça arrive. Hein. Je ne veux pas faire peur. Il y en a peut-être qui sont là-dedans. Là. Chauffage, électricité. On appelle qui? Hey, on veut qu'ils viennent vite, là, rapidement. Ça prend quelqu'un de confiance, puis que d'expérience. Puis tiens, on va rajouter achat local aussi. C'est important, Legault l'a dit. Je vous propose, Jean de Québec, Joe Drouin. Savez-vous, ça fait combien de temps? On fête cette année, c'est spécial. 100 ans. On a-tu traversé des crises? Hein? Celle de 1929, ben oui. La Seconde Guerre mondiale, les pandémies, on était là, Joe Drouin, on est là depuis 100 ans. Faites-nous confiance. On va traverser cette crise-là aussi avec vous. Vous avez des problèmes, rapidement, on va être chez vous avec des gens expérimentés, hyper prudents pour les mesures d'hygiène. Vous n'avez rien à craindre. Faites confiance à Joe Drouin. Allez sur joedrouin.ca.
En cette période de crise, le département de services et des pièces de Bilodeau Chevrolet Buick GMC demeure ouvert. Nous pouvons répondre à tout genre de problèmes mécaniques que votre véhicule pourrait avoir. On effectue également la livraison des pièces. Vous n'avez qu'à prendre rendez-vous avec le département de services au 418-827-3773. On tient à vous assurer que toutes les mesures et précautions de sécurité sont prises. On vous invite à pas prendre la route pour venir nous voir. C'est vraiment en mode urgence et dépannage qu'on vous reçoit. Bilodeau Chevrolet Buick GMC. 418-827-3773.
Besoin de sortir pour acheter de la nourriture ou pour un déplacement essentiel? Contactez Taxi Coop 5191. Ils suivent toutes les consignes pour vous conduire en toute sécurité. Service de livraison 24 heures sur 24. Téléchargez maintenant l'application Taxi Coop.
Alimentation L'Impact. Votre épicerie de quartier au cœur de Limoilou. Un choix impressionnant de viande, de fruits et légumes, toujours frais. C'est aussi le plus grand magasin de microbrasserie au Québec, avec 600 variétés de bières et toujours des promotions. Alimentation L'Impact, 1604e avenue.
Et je vous parle de céramique L'Entrepôt. Et tantôt, j'ai dit joedrouin.ca, c'est .com. Juste, c'est joedrouin.com pour l'électricité, chauffage, plomberie. Bon, pour les planchers, c'est céramiquel'entrepôt.com. Il y a beaucoup de .com, mais on magasine en ligne. On s'adapte. Céramique L'Entrepôt, là, il y a plein de gens qui nous appellent. « Hey, j'ai décidé de profiter du confinement. M'en faire des travaux, moi, je suis capable. Moi, le faire le plancher de la salle de bain. Il fait des années qu'on met ça, le sous-sol, la chambre d'amis, je sais pas, le salon. Ah ouais, go. On se lance dans les travaux. Céramique L'Entrepôt est là, puis moins cher. Vous le savez que c'est important aujourd'hui. Tout le monde, là, hein, on est plus serré, ce sont des jours difficiles. On est à 30 à 50 % moins cher chez Céramique L'Entrepôt. Profitez-en plus que jamais. Il n'y a pas de secret. On achète en gros, palette. Ouais, mais là, moi, de savoir des conseils, mais aller magasiner en ligne, m'avoir un meilleur prix, mais j'ai besoin d'un peu de conseils. Je t'habille de mes mains, mais tous nos pros sont là au téléphone, disponibles pour vous aider. Alors, en toute sécurité, on magasine en ligne, on appelle, on a un meilleur prix, puis on livre dans votre cour. CéramiqueL'Entrepôt.com.
Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo, puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi.
Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec.
Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains.
Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Nous vivons tous une situation difficile et nous sommes derrière les mesures gouvernementales. Par contre, vous devez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com continue grâce au web avec des visites virtuelles. SimonLaberge.com, courtier immobilier via Capital.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
En Mauricie, la ferme multiproduction écologique Hog et Huot prend les commandes par Internet et par téléphone pour son bœuf nourri à l'herbe, son porc élevé en pâturage et autres produits du terroir provenant d'artisans locaux. La ferme de Saint-Séverin offre un service de livraison à ses clients dans les MRC Mekinac et Deschenaux.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts? Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. Prenez rendez-vous sans frais avec l'un de nos experts à llTT.ca pour y voir clair. Mallette, avec vous, là où ça compte.
Pour prévenir les coups de soleil, vous mettez de la crème solaire. Pour prévenir les coups de chaleur, vous textez confort au 25226. Ben oui, c'est le retour de la promo coups de chaleur avec Enviroconfort et le FM 93. Textez confort maintenant au 25226, vous recevrez automatiquement un rabais de 250$ à l'achat d'une thermopompe ou d'un climatiseur. Et vous deviendrez finaliste pour gagner un climatiseur Carrier d'une valeur de 3000$. Installation incluse. La promo coups de chaleur, une collaboration d'Enviroconfort, Carrier et le FM 93.
Cogeco Média tient à vous rappeler les principales consignes qui contribuent à minimiser les risques de contagion du coronavirus. Au travail comme à l'extérieur, limitez tout contact de proximité. Évitez les poignées de main, les bises et réduisez vos obligations sociales. Il est aussi très important de laver vos mains régulièrement et d'éviter de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. En cas de toux ou de fièvre, n'hésitez pas à composer le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545.
Dans Bouche à en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Oh, bon, ça va bien?
Oui, tu veux me parler de la bourse qui, là, je sais que tu voulais me dire que ça a monté aujourd'hui, mais j'ai été vérifié. Puis...
Les derniers jours, je te parle, là, c'est pas mal au neutre.
Oui, aujourd'hui, c'est à peu près zéro. Là,
ça a bien été jusqu'en fin de journée. Ouais. En fin de journée, ça a descendu. Mais au Canada, on est neutre. Là, on est dans le minimum vert. Là. Mais c'est pas ça que je le dis.
Hier, ça a monté pas mal hier.
Oui, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est au vert dans les derniers jours. Mais... On n'est pas dans... Il y a des gens qui m'écrivent, ben, on est sous le temps de relancer, ça va repartir par en haut, puis ça va revenir. La bourse est bipolaire. Hein? Et la bourse a besoin de temps en temps d'avoir de bonnes nouvelles, et c'est ce qui est arrivé, là, en fait, des bonnes nouvelles. Les Américains, ils pensent qu'ils ont vu... ils sont naïfs un peu, des fois, tu sais. Ils se disent, oh, on va atteindre un certain plateau. Puis même quand tu vas avoir un certain plateau, il va y avoir d'autres mauvaises nouvelles après. Fait qu'on peut jouer à la bourse en bosse de chameau, monter, descendre. Mais quand même, ce que je voulais constater aujourd'hui, c'est que le creux de la vague, on l'a atteint sur le TSX au Canada à 11 173 points. Puis là, on est revenu à 13 600 quelques. Là. Donc, après avoir baissé, vu une baisse de 37-38%, ben la baisse nette, finalement, est de 24%. Tu vas me dire, c'est encore 24% de perte. Mais quand même, le S&P 500, c'est la même chose. Après avoir vu une baisse de 35%, il y a une hausse de 22%. Bon, pour les petits finaux en mathématiques, on se comprend que 35 d'un gros montant qui baisse... Ben, c'est beaucoup plus important que 22 qui remontent d'un plus petit montant. Mais quand même, au net, on a un écart net de 20% par rapport au plus haut qu'on avait cette année. Donc, ouais.
Puis c'est surtout que, puis tu nous l'avais dit ça, il n'y a pas longtemps. Il faut aussi tenir compte que la bourse avait monté de façon spectaculaire dans les derniers mois. Là.
Il y avait un 10% qui semblait, tu sais, un peu fort.
De trop un peu, là. Ben, ouais. Pour l'instant. C'était boosté un peu.
Mais là, avec tout ça, tu te dis, OK... Il y a un optimiste aux États-Unis pour avoir, dans leur tête, atteint un certain fond de baril. Il y a aussi le fait que les gouvernements injectent tellement de milliards dans l'économie, puis on vient tellement en aide que là, les gens disent, bon, on arrive à un point où la bourse a peut-être atteint son creux. Il y a le stratège de Goldman Sachs qui dit que les dividendes vont être en baisse probablement cette année, évidemment. Ouais. Puis il dit, dans le fond, les rachats, tu sais, qu'est-ce que je t'avais parlé l'an passé, ce qui avait boosté la bourse beaucoup, c'est que les compagnies rachetaient des actions. Ils trouvaient que c'était le meilleur placement à faire, racheter de leurs propres actions et n'en éliminer pour augmenter la valeur des actionnaires. Mais évidemment, on ne sera pas là avec les liquidités cette année. Donc, est-ce que c'est le temps d'investir? Ben, c'est tout le temps la question. C'est, si tu investis toute ta fortune d'un coup en bourse, tu te retrouves à mettre un market timing dans ton risque important. Donc, c'est tout le temps à acheter chaque semaine, chaque mois, des petits montants, mais au fur et à mesure que l'année passe, c'est quand même la stratégie la plus diversifiée. Vous ferez pas de coup de circuit, mais au moins, vous avez quand même la logique financière d'investir à chaque paye. Donc, vous avez un coup moyen intéressant.
Ce qui m'inquiète le plus, Pierre-Yves, moi, c'est pas la... Évidemment que je m'inquiète pour la santé des entreprises, la bourse, mais on voit que... Il y a quand même de quoi, là, tu viens de l'analyser comme il faut. Moi, c'est la santé des gouvernements. Je commence à lire de plus en plus d'analyses de gens qui disent, préparez-vous, là, ils vont couper d'un service comme vous avez jamais vu, puis ils vont monter les impôts. Ils n'ont pas le choix, là. Ils vont tellement être endettés qu'ils vont devoir dépenser moins puis faire rentrer du cash. Fait que ça, là, concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire moins de services puis plus d'impôts.
Ce qui est fatigant,
moi, j'ai peur à ça.
Ça se peut, mais ce qui est fatigant surtout, c'est qu'on a un gouvernement au niveau du Canada puis au Québec aussi. On a donné beaucoup dans les dernières années. Ah ouais, après avoir vécu, entre guillemets, de l'austérité financière à l'époque de Paul Martin, à l'époque de Jean Chrétien, après le gros déficit canadien. Après ça, Lucien Bouchard, déficit zéro. Après ça, les libéraux qui sont venus en disant faut ramener le ratio dette sur PIB à un montant intéressant, tout ça. Après ça, on s'est mis à donner de la... On a donné des cadeaux, là. M. Trudeau a donné des cadeaux au Québec, aussi des cadeaux, des garderies fixées. Donc là, on était rendu à être habitué d'avoir des cadeaux,
ouais,
puis avoir des déficits bien corrects, puis bon, puis vivre avec ça.
Ça allait tellement bien.
On se faisait parler d'un surplus au Québec. Ouais. Les Québécois se sentaient graduer. Et là, bang! C'est comme si on faisait... On revenait 10 ans en arrière.
On va tomber de haut.
Ben, on est déjà tombé de haut, peut-être le dire. Ouais. Tu sais, du monde qui ont des business, puis du jour au lendemain, ils n'existent plus. Tu tombes de haut pas à peu près. Quand il y a 3 mois, t'as de la misère. Il n'y a pas 3 mois. Il y a 1 mois et demi, t'avais de la misère à trouver de la main-d'œuvre. Hey, vous avez fermé des restaurants à Québec, vous n'avez pas de main-d'œuvre. T'en souviens de ça?
Oui.
Incroyable, là. Fermer à Ashton parce que t'as pas de monde pour vendre des hot dogs, là. C'est quelque chose quand même quand tu y penses. Puis au bout du compte, non. Maintenant, t'as encore ta job, toi? Ah ouais, t'es chanceux. Et c'est là qu'on est rendu.
Les gens qui ont trouvé que Couillard, puis l'austérité, puis le docteur Barrette, ils ont coupé, puis c'était rough. Puis tu sais, on a vu des syndicats, là, la scie mécanique à Couillard, puis à Barrette, ils coupent dans tout. Je sais pas si vous le savez, vous avez rien vu encore, là. À un moment donné, t'auras pas le choix, là. Je veux pas trop vous faire peur, je sais que l'important, c'est ce qu'on vient de parler, là, la courbe, puis on sauve des vies, puis moi, je le conteste pas. Puis c'est important de sauver l'économie, les travailleurs, les jobs. Je suis pas mal tout d'accord avec ça. Faut juste préparer les gens. Aujourd'hui, ils ont évoqué des scénarios pour le futur de la crise sanitaire. Je sais pas si tu as vu ça un peu, Pierre-Yves. Ils ont préparé les Québécois, ces scénarios optimistes, pessimistes. Voici ce qui vous attend. Je trouve ça correct. Ça nous aide à les supporter. En matière d'économie, tôt ou tard, Trudeau, Legault, ces gens-là qui font bien d'aider les travailleurs, je le remets pas en question. Mais il faudra aussi qu'ils nous disent, bon, voici ce qui va vous arriver dans les prochaines années, par exemple.
Il va falloir payer. À 100 000 par année. Puis dis-toi que tu les as rémunérés au lieu de 100 000, tu les as rémunérés au mieux genre 75 % de 58 700 $. On est ailleurs au niveau de l'impôt, là.
Ouais.
Donc, mets ça sur 30-40 % du monde. Ajoute les entreprises qui ont fermé, ils ont payé zéro cent, zéro taxe, pas de TPS, TVQ. Ça va être un drôle.
On dépense moins, on dépense tout moins. Tout le monde se le dit, ceux qui sont confinés vraiment, je sais qu'il y en a qui faut qu'ils dépensent plus pour X raisons, c'est mal tombé, mais les gens là, qui sont confinés à la maison, on dépense tous un peu moins, mais on paye bien moins de taxes que de TVQ.
Mais pas que ça, pense-y, le déplacement de ta facture du restaurant à l'épicerie, en partant, TPS, TVQ à l'épicerie, ce sont sur les produits transformés, les produits prêts à consommer ou les produits qui sont genre des biscuits faits. Mais si tu achètes des légumes, de la viande, du lait, des noix, du riz, tous les produits de base, les yogourts, ne sont pas taxés. Donc, imagines-tu, la TPS TVQ sur ton budget de restaurant, elle vient de disparaître et elle s'est transportée, si tu n'achètes pas des croquettes toutes cuites, là, elle s'est transportée ailleurs dans l'épicerie avec moins de taxes.
Exact.
Ça paraît aussi.
Ça va pareil.
Donc, j'ai hâte de voir le budget parce que, tu sais, au-delà du fait qu'on a subventionné des dépenses puis des salaires, on va percevoir moins d'impôts. Évidemment, pas pour l'instant, on parle, Sylvain, d'un mois, deux mois, mais c'est le genre de voir comment on va se relever.
D'ailleurs, toi aussi, tu penses également que notre rapport envers les liquidités va changer. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je te donne un exemple, puis tu vas me comprendre là-dessus. Mettons que t'es parti, il y a un gars, je me suis blessé l'an passé, moi, je vais dans une clinique de physio. Le gars, il a 30 ans, il a investi dans 2 cliniques de physio, tout ça. Puis là, il essaie de recruter des physios, tu sais.
Ouais.
Puis, d'un autre côté, t'as certaines portions de la physio qui est au provincial, donc au gouvernement, c'est-à-dire c'est des physios qui travaillent dans les hôpitaux, les CLSC, peu importe. Là, toi, tu leur offrais des clients, une capacité de croissance, tout ça. Puis l'autre bord de la rue, il y a des jobs avec des régimes de retraite, des salaires assurés pendant une pandémie et... Toi, tu viens de... En une semaine, deux semaines, ta business vient de tomber à zéro. Donc, notre rapport à l'importance d'attendre après son chèque de paye, d'être sûr de l'avoir, vient de changer de façon incroyable. Même chose avec les entreprises. Tu sais, un dentiste, on se dit tout le temps, les dentistes font de l'argent. Tu penses-tu compte présentement les dentistes, là? Ils ont une couple de 100 000 d'équipements au BAT, ils ont des employés, ils ont acheté un local, ils l'ont loué, peu importe. Il n'y a plus rien qui rentre.
Ouais.
Donc, ton risque, ta capacité de prendre du risque avant, là, depuis 10, 12, 15 ans, les taux d'intérêt baissent. On fait de l'effet de levier en masse. On se dit, pourquoi je paierais? Je vais m'endetter pour payer de l'investissement. Je suis le premier à le dire et le premier à le faire. Mais moi, pendant la crise, j'ai pas vu de baisse significative de mes revenus de loyer ou de mes revenus personnels. Oui, mais assez pour couvrir mes dépenses. Mais des gens qui ont, je sais pas moi, 50, 60 portes, puis là, tu as un locataire sur 3 qui dit, je te paierai pas tout de suite. Ouais. Puis il y en a d'autres qui ont des business qui roulent, mais ça fonctionne, ils ont 2-3 mois de liquidité, mais là, ils ont zéro entrée d'argent. Pouf, plus rien.
Mais ça, c'est pas bon pour la reprise, ce que tu dis là, parce que, mec, la reprise arrive, t'es en train de nous dire que ça va être le retour du bas de laine. Il y a bien des gens qui vont se dire, ce qui est pas mauvais à long terme, ah, ben, garde, on va s'en mettre de côté, on va se créer un coussin. Sauf que pour redémarrer l'économie, cet argent-là ne sera pas disponible.
Mais ça te prend les entrepreneurs qui sont game d'aller à la banque, puis tu prêtes-tu 1 million? Mais là, attends une minute, on va jaser, Sylvain, là. L'année passée, tu m'avais dit de partir une business avec 1 million de prêts ou avec tant de flux de trésorerie qui rentrent, ouais. Là, je t'en disais pas de post-COVID-19 dans 3-4 mois.
Ouais.
J'arrive à la banque, je vais emprunter 1 million, puis mon modèle d'affaires, c'est de faire du service. Donc, là, le domaine, imagine-tu, l'épicerie vient de prendre une baisse de risque. Là, on vient de voir que tu sais, donner des services de base que dont les gens ont besoin, c'est là que je dis tout le temps, moi, quand l'économie plante, qu'est-ce qui reste? Il reste la bouffe puis les logements. Tout le reste, c'est au bat. Tout le reste, ça peut être considéré comme relativement du luxe, et on le voit. C'est tout ce qui est divertissement, tout ça. Et j'en parlais ce matin. Il y a un journaliste qui a le Journal de Montréal, Michael Détrempe, qui a fait un article sur le rapport avec la job de rêve des plus jeunes. Puis là, il dit, hey, sais-tu quoi? Cette espèce de rêve-là qu'on vend de lâche ta job, vis tes rêves, vis du voyage, de tout. Ben, peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, ça se pourra plus. Peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, c'est un rêve qu'on avait, puis on méprisait le 9 à 5, mais finalement, le 9 à 5 est peut-être pas mal plus logique, parfois à moyen terme, que de vivre de ses passions.
Ouais, mais tout ça va dépendre de la durée de la crise. Si on est, mettons, scénario optimiste, je pense que la confiance va revenir chez les consommateurs. Ils vont malgré tout sortir au restaurant. Il y avait un char de prévu qui voulait changer, ils vont peut-être changer. Mais si la crise est plus tough puis dure longtemps, là,
OK, ton restaurant va être là de quoi, Sylvain, dans 3 mois? Il va-tu être une table sur deux fermée? Il va-tu être un restaurant?
Dans 3 mois, ça se peut. Dans 3 mois, ça se peut qu'il y ait encore de la distanciation sociale, genre 50% des tables fermées. Quand on va avoir le remède et le vaccin, là, on va reprendre la vie normale.
Moi, c'est ça, bien, je peux te dire que j'ai changé drastiquement mes habitudes, mais drastiquement. J'ai jamais été aussi sédentaire de ma vie au niveau de tout faire à la maison. Moi, j'aimais ça, sortir de chez nous. Tu sais, moi, ma vie, c'est ça. J'ai pas des gros actifs de voiture et tout ça, mais mon luxe à moi, c'était de sortir de chez nous, d'aller au café, d'aller, tu sais, quand... Et là, tu fais ton café à la maison, puis tu te rends compte qu'il n'est pas payé finalement ton café à la maison, puis ton petit lunch ou sandwich, tu pognes au magasin du coin, ta petite soupe, t'as fait à la maison, puis ton souper au barbecue, finalement, tu te dis, finalement, mon filet mignon, ouais, il est aussi bon qu'au resto. Tu comprends-tu?
Mais d'un autre côté, t'as raison. Puis il va y avoir aussi, j'en jasais avec un spécialiste ce matin.
Le goût d'en sortir notre coquille.
Ben, on est des animaux sociaux. On va avoir le goût encore d'aller voir des shows. On va avoir le goût encore de se regrouper au restaurant entre amis. T'sais, moi, je suis partagé. Moi aussi, j'ai pris des habitudes. Je suis plus, comment est-ce qu'on dit ça, casanier. Pas le choix, là. Je suis enfermé tout le temps. Sauf que, fait qu'il y a des affaires que, oui, on peut découvrir. Je cuisine plus. On fait livrer des affaires. Mais je vais avoir le goût aussi. T'sais, il va y avoir les deux phénomènes. Parce qu'il faut que la machine restarte. Si l'économie ne redécolle pas, pas de suite, là. C'est pas le temps encore. Là, on est confiné. Mais quand ça sera le temps, si ça décolle pas, le scénario que je t'ai parlé tantôt au niveau gouvernemental va être encore pire, là. Parce qu'il y aura encore moins de revenus au gouvernement si on fait pas redécoller l'économie.
Mais j'imagine ça au travail, quand t'allais à Québec ou à Montréal pour une réunion, là, pendant la COVID, tu vas avoir essayé ta téléconférence, tu vas dire, c'est bien mieux de même. Tu sais, il y a du monde qui vont se rendre compte qu'il y a des déplacements ou des activités dans leur agenda qu'ils ne voulaient pas faire, qu'ils le faisaient pour rien, et la business a continué pareil. Et donc, c'est sûr que ça peut pas avoir aucun impact. Mais il va y avoir du bon comme du mauvais. Comme j'ai un ami qui a développé son site web de compagnie à vitesse grand V à cause de ça. Ben là, il est prêt à faire du commerce électronique beaucoup plus vite qu'il pensait.
On va peut-être rattraper un certain retard. Pierre-Yves, merci.
Salut.
On se reparle demain, 16h58 au FM 93.
Dupont le matin avec Stéphane Dupont. En semaine, dès 6h au FM 93.
En cette période de crise, le département de services et des pièces de Bilodeau Chevrolet Buick GMC demeure ouvert. Nous pouvons répondre à tout genre de problèmes mécaniques que votre véhicule pourrait avoir. On effectue également la livraison des pièces. Vous n'avez qu'à prendre rendez-vous avec le département de services au 418-827-3773. On tient à vous assurer que toutes les mesures et précautions de sécurité sont prises. On vous invite à pas prendre la route pour venir nous voir. C'est vraiment en mode urgence et dépannage qu'on vous reçoit. Bilodeau Chevrolet Buick GMC. 418-827-3773.
Gâtez-vous. Pizza Royale Boulevard Amel, tout comme à Beauport, vous offre ses savoureuses pizzas et plus. Sur commande pour emporter et en livraison. Des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour protéger nos clients et nos employés.
Pizza Royale.
Comme le disait Pierre-Yves, ben oui, on est à la maison plus que jamais. Il faut que ce soit agréable, par exemple. Il faut qu'on soit... On essaye de rendre ça le plus confortable possible. Imaginez, il ne faut pas faire peur. Il y en a que ça va le démanger, juste à mentionner ça. Mais imaginez que vous avez un problème d'insectes, vous avez un problème avec des bébites, des rongeurs pendant cette période-ci. Maudit que c'est pas le temps, mais ça peut arriver. Pas de votre faute. Mais là, prenez le téléphone puis appelez une entreprise d'ici. Ça aussi, on le répète, il faut encourager l'achat local. ABA Extermination, ABAT. ABA Extermination, on est là rapidement, super service. Évidemment, on est habitué de travailler dans des domaines, c'est spécial, un peu au niveau de la santé, l'hygiène. Fait qu'on est déjà expert là-dedans, ça va être super sécuritaire. On est le choix en 2020. Le choix des consommateurs. Prix des consommateurs, le prix 2020, on l'a reçu. Merci beaucoup de votre confiance en cette période de crise. Appelez ABA Extermination, site Internet, abaextermination.ca.
Question d'entrepreneur numéro 1.
Patron, je dis ça de même, là, mais avec tout ce qui se passe, là, notre plan de match, y est-il encore bon?
Question numéro 2.
Patron, on prend ça par quel bout?
Question numéro 3.
Patron, quand ça va repartir, là? On va être prêt?
Dans une période où les entrepreneurs se posent de nouvelles questions, Mallette aide à trouver de nouvelles réponses. Mallette et mallette.ca. Réponse pour PME.
Patron, solidarité, ça prend deux L.
Depuis 1920, pour tous vos problèmes de plomberie, électricité, chauffage, vous appelez l'équipe de Joe Drouin. Une entreprise sur laquelle vous pouvez compter même en période de crise. En tant que service essentiel, ils sont là pour répondre à vos urgences. Ils offrent un service rapide et efficace. Ils ont mis en place divers protocoles de protection et de décontamination en collaboration avec une microbiologiste. Pas question d'augmenter les prix. Ils gardent leurs tarifs réguliers déjà très concurrentiels. Problème de plomberie, électricité, chauffage, joedrouin.com et suivez-les sur Facebook.
Aujourd'hui, c'est le Yves-Jacques, la capitale nationale, qui vous parle. Je demande à chacun et chacune de vous de respecter les consignes de la santé publique. Bien se laver les mains, tousser dans son coude, garder ses distances et rester chez soi. C'est sûr que j'aimerais ça continuer d'aller d'un bord à l'autre de l'océan, mais là, c'est pas le temps de sortir. C'est même de chez moi que j'ai enregistré ce message-là. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 1-877-644-4545 et sur québec.ca/coronavirus. Un message du gouvernement du Québec.
Je vous parle de la tanière. J'aimerais tellement ça, vous inviter à Pâques, en fin de semaine, ou même à soir, pourquoi pas, jeudi, vendredi, dans un des restaurants du groupe La Tanière. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Allez voir sur le site Internet, on a notre service, merci beaucoup, ça a été un immense succès pour les livraisons à domicile. Mais les gens de La Tanière ont décidé de profiter de ce temps d'antenne qui normalement servirait à vous inviter dans leur resto pour dire bravo aux anges gardiens, à tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé. Alors, ce message a été, comme on dit en campagne électorale, payé et retenu par les gens de La Tanière pour une bonne raison. Bravo à vous tous. Continuez à faire un super travail. On a très hâte de vous retrouver dans nos restaurants le plus tôt possible.
Salut, ici Bruno Savard de Radio-Canada. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est que peu importe si le Québec fait mieux que les scénarios anticipés de la pandémie, ben, il ne faut pas baisser la garde. Les autorités de la santé publique ont dévoilé aujourd'hui les courbes de prévision. On en fera l'analyse au téléjournal et aussi le principe de l'immunité communautaire expliqué par le directeur de la santé publique de la capitale nationale.
Le téléjournal Québec, ce soir 18h. Ici Radio-Canada Télé.
Les orthésistes du pied de Québec, en tant que service de première ligne, sont ouverts, bien sûr, avec des restrictions. Comme ils ont un département d'infirmières, leurs consignes sont strictes et à la fine pointe. En tant que famille d'orthésistes, il est important pour eux de travailler afin de soutenir la communauté. Vous avez des maux de pied, de genoux ou de hanches, ils ont du temps et ils peuvent vous aider. Une bonne marche, ça fait du bien. Prenez rendez-vous, les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande, piedquebec.com.
Chez Rémo Chabot, bien vous servir est notre priorité. Nos conseillers et syndics autorisés en insolvabilité sont là pour vous aider par téléphone ou vidéoconférence. Restez en sécurité à la maison et appelez-nous pour une consultation gratuite. 1-855-AIR-CHABOT.
Vous êtes confiné à rénover? Profitez du magasinage 100% sans contact de Céramique L'Entrepôt. Magasinez en ligne, profitez du prix palette, finalisez par téléphone et ils vous livreront le tout dans votre entrée. Magasinez chez céramiquel'entrepôt.com. Normandin.com.
Le FM 93 est fier de souligner l'implication de Normandin dans la région. Pour répondre à l'appel des banques alimentaires, Normandin a décidé d'augmenter sa contribution auprès des organismes locaux, dont Moisson Québec. De plus, pour permettre aux clients qui le souhaitent, il est possible de faire un don de produits Normandin lors des commandes en ligne. Un geste sain, facile et volontaire qui peut faire la différence. Tous les dons recueillis seront remis aux banques alimentaires de chaque localité où se trouve un Normandin. Bravo à toute l'équipe de Normandin pour cette initiative.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Nous vivons tous une situation difficile et nous sommes derrière les mesures gouvernementales. Par contre, vous devez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com continue grâce au web avec des visites virtuelles. SimonLaberge.com, courtier immobilier via Capital.
Le Québec est sur pause. Mais les services essentiels, ça, chez nous, c'est essentiel. Vous êtes en recherche d'emploi? Vous recherchez des employés? Ensemble, sauvons nos emplois. Facilitons le contact entre l'offre et la demande d'emploi. Chez nous, employeurs, chercheurs d'emploi. Textez emploi au 25226. Textez maintenant emploi au 25226. Ensemble, sauvons nos emplois. Une initiative Cogeco Média.
Pour prévenir les coups de soleil, vous mettez de la crème solaire. Pour prévenir les coups de chaleur, vous textez confort au 25226.
Ben oui, c'est le retour de la promo coups de chaleur avec Enviroconfort et le FM 93. Textez confort maintenant au 25226, vous recevrez automatiquement un rabais de 250$ à l'achat d'une thermopompe ou d'un climatiseur. Et vous deviendrez finaliste pour gagner un climatiseur Carrier d'une valeur de 3000$. Installation incluse. La promo coups de chaleur, une collaboration d'Enviroconfort, Carrier et le FM 93.
Crise du coronavirus. Les mesures. Les points de presse. Les plus récentes nouvelles sur le terrain. Nous sommes là pour vous. Où que vous soyez, le réseau Cogeco est toujours avec vous.
FM 93. Au cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec. Depuis 40 ans. FM 93. Québec.